Ah, Dédé.
Le goût du monde. Clémence de la vie.
Bonjour, bienvenue sur RFI, merci d'être avec nous, installez-vous. Vous êtes bien ?
Très bien, merci.
Bonjour Zouri.
Bonjour, bonjour Clémence.
Merci d'être là avec nous dans cette émission. Vous êtes cuisinière itinérante, alors on va raconter un petit peu pourquoi. Vous vivez pour le moment à Marseille. Vous êtes originaire de la côte du sud-ouest de l'Inde. Une terre, la mer, les fleurs, les parfums, les couleurs, dans le soleil, la chaleur, la mousson, les mangues, le piment vert et les rhizomes. Tant de lumière dans les pages de votre livre qu'en l'ouvrant, il m'a fait l'effet d'un trésor. Vous savez ce qu'on déploie, on les ouvre et tout à coup on a des plumes de paon qui s'échappent. C'est un peu l'impression que ça m'a donné votre livre. Est-ce un journal? Est-ce un carnet de voyage? Les mots en tout cas semblent chuchoter. Ils racontent vos racines culturelles, les couleurs et les goûts de votre héritage. J'aimerais, si vous en êtes d'accord, pour sortir de ce studio, que vous nous emmeniez quelque part, là où vous voulez, et que vous nous racontiez un peu où est-ce qu'on est, quelle heure il est, quelle température il fait, quel est le moment de la journée ou de la nuit, avec qui on est et qu'est-ce qu'on mange.
Alors, on est à Goa, à Salégao, dans le nord, c'est le matin. Il fait assez fraîche parce que le soleil vient de se lever. Il y a une petite brume qui monte sur les palmiers. On entend le boulanger sur le vélo avec un panier du pain tout chaud, avec une petite chose qui fait pouah, pouah, pouah.
Un klaxon comme
oui,
un klaxon.
Oui, mais c'est une klaxon très ancienne en caoutchouc. On entend les gens disent good morning en anglais, avec l'accent de Goa, ou parfois en Konkani, comme dans la chanson que vous avez mis à l'introduction. On est dans un petit café qui va se transformer en bar dans l'après-midi quand les tontons viennent boire une bière ou du fennec, c'est l'alcool de cajou. Mais là, pour le moment, il y a beaucoup de familles. Il y a des gens qui sortent de l'église, du messe du matin. Il y a des gens qui viennent vers le travail. Il y a les étudiants, les écoliers. C'est surtout des tables en formica, des tables à partager. Et du coup, parfois, on peut avoir des inconnus à côté de nous avec qui on va discuter les nouvelles du matin, les prix du riz. Sinon, on peut manger aussi en silence. On mange des poïs. C'est le pain rond, très rustique, fait avec du sang du blé, fait dans des fours au feu de bois. C'est le même pain que le boulanger il est en train de livrer partout, qu'il fait une tournée le matin et le soir. Sinon, on peut aussi avoir des brioches, c'est les pao, c'est des pains très moelleux, très doux. Et on mange ça avec des bhaji, et du coup, c'est des mélanges de soit des pois séchés qu'on réhydrate, soit un bhaji de champignons.
Et c'est vous dites bhaji, c'est des beignets, en fait.
En fait, c'est ça qui est compliqué, parce qu'on va aussi manger des bhojé. Et bhojé, c'est les beignets, et ça va être des bhojé de piment vert qu'on va mettre dans le pain, comme des petits sandwichs. C'est très bon. C'est très bon, avec un thé bien sucré, bien lacté, beaucoup de lait, très un chai. Le thé, là, la couleur, c'est même pas marron, c'est presque, il y a des notes très rouges, c'est un thé spécifique. Et on va manger du coup le bhaji, et du coup le bhaji, c'est comme un gravy, c'est comme une petite sauce avec des choses dedans. Et le matin, on mange salé, du coup, et on mange ça avec le pain qu'on va tremper dedans. Si on a envie d'une petite chose sucrée, il y a des banana bread, mais ce ne sont pas des banana bread comme au café. C'est des petites galettes avec du curcuma, graines de cumin et des bananes plantains qui sont écrasées pour faire une pâte avec du blé. Voilà. Et on entend les bruits, on entend les scooters, on entend.
Et vous
gens.
Êtes avec qui?
Je suis avec mes amis. Je suis avec des inconnus, je peux être avec mon père, je peux vous inviter si vous êtes dans le coin.
Je veux bien.
Et c'est un moment que j'aime beaucoup dans le sud, parce que c'est un moment où on sent la jour arriver, la température changer, parce que C'est très rare d'avoir ce moment de fraîcheur. C'est quelques heures le matin et ça disparaît très vite avec le brise marine qui arrive, avec les chaleurs, avec le soleil. Et du coup, pour moi, quand je dis fraîcheur, il fait 29 au lieu de 35.
Voilà, c'est ça. C'est on est une espèce de répit du matin
Oui,
qu'on n'aura plus dans le reste de la journée.
ouais. Il fait déjà très chaud, du coup tout le monde est en claquette avec des shorts de plage. En Goa, les mamies s'habillent en froc. C'est des petites robes avec des manches bouffantes, très moulants en vrai, dans des couleurs assez pop, très bien habillées, juste pour aller faire le marché. Voilà.
Merci.
Merci à vous.
Merci. Alors, on est complètement sorti du studio. On a presque mangé, croqué ses pains avec ce piment. Quelle place a la cuisine dans votre vie? Parce que tout de suite, on a vu dans votre voyage, il y avait de la nourriture. Parce que je vous ai posé la question, mais pas seulement. Elle s'infiltre assez naturellement. Qu'est-ce qu'elle vous permet de dire qu'aucune autre matière ou sujet ou contexte vous permettrait de dire?
C'est quelque chose, c'est une porte que j'ouvre qui me permet de comprendre plus mon héritage. Mes parents viennent de deux régions différentes. Ils ont tous les deux grandi dans des villes et des pays différents. Chez moi, mon père, il parlait anglais, swahili, konkani.
Parce qu'il a vécu au Kenya.
Ouais, il est né à Nairobi. Il a grandi jusqu'à 17 ans. Et lui, il était aussi entre deux pays, du coup. Et il a aussi connu Goa en tant que colonie portugaise, qui est aussi quelque chose. Jusqu'à 1962, c'était une colonie portugaise. Et ma mère, qui a grandi à Pune, dans la région de Maharashtra, qui a aussi vécu au Trinidad, Hong Kong, Zambie, île Maurice. Et du coup, je pense tous ces voyages, toutes ces histoires, toutes ces langues, tous leurs souvenirs que moi j'ai entendus. Je me sens parfois un peu déracinée aussi parce que j'ai beaucoup voyagé et j'ai grandi dans plusieurs pays pareils. Et du coup, la cuisine, ça me permet de comprendre qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de partager, où me situer dans ce monde assez complexe.
Ça vous donne une place.
Oui, je crois.
Et ça vous permet aussi de l'exprimer et de la partager.
Oui. Et accepter un peu le fait qu'on peut avoir cette multiplicité culturelle. Que ça peut être, moi je viens et ici et là-bas.
La musique, vous ne l'avez peut-être pas reconnue, mais en fait, je l'ai dérobée sur votre compte Instagram. Parce que je suis allée au fil des pages de votre compte Instagram et on a des moments où on est sur le balcon, on est dans l'air de Marseille qui vous rappelle Pune justement,
Oui.
Des moments de chez vous là-bas et des moments de chez vous ici.
Oui.
Et c'est ça en fait qu'on sent vraiment dans votre approche. C'est où est ma place, où est mon héritage, comment est-ce que je le transmets, comment je le dis. Quand vous cuisinez à Marseille, Marseille qui est une ville cosmopolite, le monde est à Marseille. Comment on se sent quand on vient du monde, qu'on a un héritage aussi varié, même dans les religions d'ailleurs, parce que vous êtes, votre mère est hindoue, je crois, votre
Oui,
père catholique.
catholique, oui.
Donc dans tout ce métissage, est-ce que Marseille, c'est un bon point d'ancrage?
Je pense que oui. Je pense que Massé, ça me rappelle beaucoup Bombay, où j'ai habité avant de déménager. Et le fait que c'est une ville maritime, portuaire, il y a aussi cette notion de voyage, partage, passage. Et ça m'accueille. Et je pense qu'on peut toujours trouver une place. Il y a beaucoup de possibilités dans cette ville.
Quand on vous lit, alors votre livre, il a un titre très beau, Là où le riz sent les fleurs de manguier. Et on le découvre, ce riz, il a un nom.
Oui, ça s'appelle Ambe Mor.
Un
Et
bémol.
Ambe, c'est un mangue en marathi. Et Mor, ça veut dire fleurs, les bourgeons. Et ouais, c'est un riz que je rêve de trouver ici.
Est-ce qu'il a le même goût quand il voyage, ce riz?
Je sais pas parce que je le mange même pas à Goa. C'est un riz que je mange vraiment juste chez ma grand-mère et ma mère, mais du coup, la côté maternelle qui vient de Maharashtra. Et pareil, c'est même pas toute la région de Maharashtra, c'est juste une petite vallée à côté de Pune, s'appelle Mulchi, où ce riz pousse et est cultivé. Et du coup, mais j'accepte le fait qu'il y a des saveurs que je vais que retrouver chez moi. Et c'est ok. C'est même beau, je
Du
trouve.
coup, on peut être dans l'attente de ces saveurs et de les retrouver.
Oui, je pense. Je pense que c'est important de cultiver cette sensation de nostalgie parfois. Moi, ça me nourrit. Ça me, parfois, c'est triste parce que oui, la nostalgie, c'est aussi la mélancolie, c'est cette sens de déracinement, mais aussi quelque chose de très beau de se retrouver. Et je trouve ça, ça m'inspire.
J'aime bien dans l'idée du mot manque.
Oui.
En anglais, c'est longing for.
Oui.
Donc il
oui.
y a du désir
oui.
et de la douleur dans le terme en
oui.
même temps. Et j'ai l'impression que votre rapport à la nourriture, c'est un peu ça.
Mm.
La cuisine du manque, en réalité, avec l'art de conserver, de capturer.
Oui, oui, je pense aussi, et je pense que c'est parce que c'était aussi un moment assez dur pour moi, les livres, parce que mon père est décédé au milieu de l'écriture.
De son écriture.
Ouais, avec une maladie qui a duré un an. Mais c'était une maladie où il ne pouvait plus parler, enfin, elle était consciente, mais pas trop. Et du coup, de voir... C'est pas enfin, mon père avec qui je pourrais plus communiquer avec lui, cette sensation, mais il était présent, il était vivant. Cette sensation de manque, c'est devenu encore autre chose, ça a approfondi. Et dans le livre, je pense le livre, ça m'a permis aussi de beaucoup m'engager avec toutes ces émotions très fortes, et surtout d'être loin de famille pendant ces moments. Et du coup, ouais, je pense, c'est comme vous dites, c'est une cuisine de manque, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce rapport, pas faussement à la cuisine, mais juste à l'identité culturelle. Parfois oublié, parfois manqué, parfois...
Et être surpris parfois aussi.
Ouais,
par
ouais.
certaines saveurs, par certaines
c'est
choses
vrai.
Que vous retrouvez,
oui, c'est
et auxquelles
vrai.
Vous ne vous attendez pas.
C'est vrai. Ça, c'est un vrai plaisir quand ça arrive, parce que c'est très beau. Ça m'arrive parfois à Paris et je trouve ça très, très beau. Quand je retrouve quelque chose de très familier dans un paysage complètement inconnu.
Ouais. Comme manger des paniers pourris quand ouais. on est à côté de la gare de l'Est. Fina Mousso, Loubiana et Gaëlle Faye sur RFI, mère, grand-mère, sœur. Ce fil transmis au fil de l'eau, des fleurs, la lumière. Vous nous rejoignez, bienvenue. Vous écoutez le goût du monde, le goût du piment et de la coco fraîche, voyageant le sud-ouest de l'Inde, compté, goûté, mitonné par la chef Zuri Camille Dessouza. Elle publie « Là où le riz sent les fleurs de manguier » aux éditions Une Mère. Je voudrais savoir, Zuri, vous parlez d'une épice très particulière que faisait votre père, que vous emportiez avec vous, quand vous partiez, quand vous quittiez l'Inde pour revenir, parce que vous allez en Inde, mais pas forcément fréquemment. Comment s'appelle-t-elle? Parce que je ne sais l'écrire, mais je ne sais pas la prononcer.
C'est Shakuti. Du coup, l'ex en Konkani, on dit che, un peu comme en Pays Basque, je crois. L'ex se transforme en che. Et c'est Shakuti Masala.
Le Shakuti Masala, alors qu'est-ce que c'est?
C'est beaucoup de épices, c'est vraiment beaucoup. Torréfié très lentement avec, du coup, il y a de l'anis étoilé, il y a du pavot blanc, il y a du coriandre, il y a de fenouil, il y a plein d'épices différentes, torréfiées individuellement, et puis aussi avec de coco fraîche ou coco râpé qu'on fait torréfier très longtemps à feu doux pour le dorer et pour le rendre extrêmement parfumé. Et c'est un mélange qu'on utilise, et vu qu'il y a du coco torréfié dedans, ça épaissit les gravies, le curry. Et souvent, le classique à Goa, vu que c'était des communautés qui mangent beaucoup du bœuf, et du coup c'est beef shakuti, et c'est un mot comme un daube, enfin très cuit très longtemps. Sinon, il y a le chicken, enfin le poulet shakuti. Et sinon, mon préféré, c'est le champignon. Et c'est souvent avec des champignons sauvages cueillis pendant la moisson.
On sent que vous êtes vraiment connecté à la nature, que c'est très important dans votre philosophie de vie. Oui. Il y a des fleurs, évidemment. Le langage des fleurs dans votre vie, j'ai l'impression, est très, très important. Oui. Leur couleur, leur vertu thérapeutique aussi. Oui. D'ailleurs, les fleurs se sont invitées à Rome. Il me semble, puisque vous avez fait la première résidence de la Villa Médicis, donc la Villa Médicis qui est ce petit coin de France en Italie. Quel était le projet que vous nourrissiez?
Le projet, c'était de lancer la résidence de chèvre, installer, préparer les deux cuisines. Il y a deux cuisines, une plutôt nouveau, moderne. Il y a une cuisine beaucoup plus ancienne avec un grand évier de marbre, rencontrer plein de maraîchers, de maraîchères, des producteurs et des productrices, imaginer la carte pour les pensionnaires, cuisiner des banquets pour 150 invités, une soirée juste impromptue, parce que c'est aussi comme une ambassade culturelle, et aussi prendre le temps de comprendre le terroir du Rhum qui est très, très, très magique aussi. Plein de facettes différentes.
Et vous n'aviez pas aussi le projet d'un potager?
Oui, et du coup, ouais, c'est ça, c'était quelque chose qui était incroyable, c'était travailler avec l'équipe du jardin. Parce qu'avant, le village, c'était hors la ville, et il y avait les citronniers, les pommes de terre, les vignes, plein d'agrumes. En vrai, il y a 14 variétés d'agrumes différentes, des cerises. Et après, toute la place pour faire cultiver toutes les herbes, les aromates et les fleurs comestibles, justement, que je pouvais utiliser aussi en cuisine. Et c'était vraiment beau aussi de suivre les saisons avec le jardin, vu que je suis restée de janvier à janvier. Et de voir aussi, c'est à peu près 7 hectares, je crois. Et du coup, de dire que je peux aussi faire la cueillette en centre-ville avec les fleurs de glycine, l'ail sauvage. Enfin, c'était vraiment magique.
Ça fait partie de vos racines. Qui vous êtes?
Je pense qu'en Inde, en général, n'importe quelle religion, musulman, hindou, chrétien, bouddhiste, juif, jain, zoroastrienne, les fleurs, ça fait toujours partie des cérémonies. Les marchés des fleurs en Inde, c'est incroyable, c'est la magie. Mais aussi, mon père et ma mère aiment beaucoup jardiner. Et on habitait toujours en ville. On avait des petites maisons, mais je me rappelle que mon père l'a installé toujours là où on déménageait. Lui, il adorait les hibiscus. Mmh. Il y avait plein de variétés différentes. Hibiscus, du jasmin, des roses. Et je vois ce rapport avec les fleurs. Je vois la sensibilité inhérente aux fleurs. Enfin, il y a quelque chose de très sacré pour moi et j'aime beaucoup transmettre ces émotions dans ma cuisine. Mmh. Ces valeurs aussi.
D'ailleurs, vous écrivez, en Inde, la religion est centrale, la foi, la spiritualité sont centrales. Et cependant, on ne les voit pas forcément. Mmh. Et vous dites, il faut aller dans les marchés.
Oui.
Pour se rendre compte.
Oui. Oui, parce que je pense que le rapport à la religion en ce moment en Inde est très complexe et
très paradoxal.
Oui, je pense.
Très conflictuel.
Très conflictuel. Et moi, le fait que déjà que mes parents ne sont pas du même religion, le fait que ma famille, enfin, on est très mélangés, mes amis. Et l'Inde, c'était aussi ça. L'Inde indépendante, c'était aussi cet espoir de pouvoir vivre en unité, enfin déjà le fait de séparer l'Inde et le Pakistan, déjà ça c'est un traumatisme historique que va prendre beaucoup de temps à soigner. Mais je trouve que oui, la religion, c'est pas dans les tombes, c'est pas dans les lieux religieux classiques, c'est dans le marché où il y a beaucoup de volonté et générosité et quelque chose de beaucoup plus sensible, je trouve.
Spontané,
sacré,
éveillé.
Oui, je pense.
J'adore la vie, vous écrivez, qui émane de ce lieu, le marché. Je suis heureuse que dans un pays qui a sacrifié tant de pratiques artisanales et de riches traditions sur l'autel du tourisme, il existe des endroits comme celui-là. Les étals des femmes qui pratiquent la cueillette et cultivent leur petit jardin. Leurs paniers en bambou tressés sont pleins de trésors dénichés dans la forêt. Des petites mangues sauvages, des guirlandes délicates, aussi fines que de la dentelle, des ignames, des papayes selon la saison, des bouquets de feuilles d'amarante rouge, du poivre noir du jardin, des tiges d'aloe vera et d'autres produits aux vertus médicinales. C'est cette connexion intime, cette spiritualité qui vient de partout.
Oui. Pendant que j'écrivais le livre et pendant que je faisais les photos, je passais beaucoup de temps au marché. Je suis allée tous les jours. Toutes les femmes qui sont assez... Le mot en anglais, c'est sassy. Je ne sais pas comment...
Elles sont un peu taquines, elles sont un peu flirteuses.
Oui, et vraiment, et moi, j'arrivais, je faisais les photos, elles ne comprenaient pas du tout pourquoi je faisais des photos. Mais elles étaient assez drôles et on a passé beaucoup de temps ensemble. Mais plus je regarde, je vois un peu la place que ces femmes, ils ont dans la société, à la fois d'être, surtout... La responsabilité de soutenir la famille, de prendre soin de tout le monde, de nourrir, de trouver de la nourriture, de faire tourner leur entreprise, parce que c'est quand même des femmes qui ont des... Enfin, c'est leur métier de venir vendre des choses au marché, de faire la cueillette. Et juste de... Je pense j'ai trouvé une puissance très douce, mais très présente dans tout ça, cette... responsabilité qu'elles avaient aussi vers l'écologie, le fait que c'est des gens qui pratiquent toujours la cueillette. L'Inde, l'agriculture industrielle a pris une grande place et c'est pas toujours équilibré. Surtout à Goa, qui est, comme je dis, c'est un petit coin de l'Inde, c'est toute mini comme région. C'est très riche, c'est très vert, mais le tourisme, c'est la seule chose prioritisée. Et je trouve quelque chose de très beau dans ces femmes qui restent avec leur pratique. Parfois, on peut dire qu'elles n'ont pas le choix, mais je trouve que c'est quand même quelque chose de très commendable.
C'est une affirmation.
Ouais.
Le goût du monde sur RFI.
Qu'est-ce que vous a appris votre grand-mère? Alors, vous en avez deux. Il y a Adji.
Oui, hein? Et Dora.
Qu'est-ce qu'elle vous a appris, Adji?
Alors, Adji, elle m'a appris... beaucoup de choses. Déjà, la cuisine, plein de choses à cuisiner. Pendant les vacances d'été avec mon frère Zain, mon petit frère, on passait les étés avec Adji Adoba, du coup mes grands-pères maternels. Et l'après-midi, le matin, c'était les devoirs, si on avait des choses à faire, ou le télé parfois, parce que c'était interdit chez mes parents. Et après, c'était parfois faire des petites courses avec mon grand-père. Il adorait nous amener au marché. Acheter, des feuilletés à la crème, des petits gâteaux, des fleurs. Enfin, elle adorait offrir des fleurs à ma grand-mère. Ma grand-mère, parfois, elle n'arrivait pas à dormir le sieste, du coup. Et du coup, on cuisinait ensemble et on faisait plein de gâteaux, on faisait plein de pâtisseries. Parce que quand elles étaient à l'étranger, la famille de ma mère, c'est ma grand-mère qui cuisinait pour toutes les fêtes. Les fêtes d'entreprise, les déjeuners, les dîners entre amis. Et on adorait, avec mon frère aussi qui adore cuisiner, on aimait beaucoup écouter, entendre toutes ces histoires. J'ai aussi appris à apprécier les tissus, les bijoux, enfin toutes les choses que ma grand-mère qui lui font, elle. Et aussi, je pense la douceur, que parfois je peux oublier en cuisine, mais j'essaie de me rappeler d'elle. Ma grand-mère paternelle, Dora, c'est déjà comment il ne faut pas manger des chips en faisant du bruit. Ça, pour elle, c'était genre non. Et après, la cuisine aussi.
Et du côté de Dora aussi, vous avez un rapport avec la forêt?
Oui, j'ai des souvenirs avec elle où elle habitait dans un petit village. Elle adorait faire des bouquets de fleurs séchées. Et du coup, on allait parfois juste faire la cuisine, mais pour faire des bouquets. Elle, ma grand-mère Dora, elle n'a pas fait l'école. Elle s'est mariée très, très jeune. Mais elle est née à Zanzibar. Et elle a grandi dans une famille très pauvre. Ils avaient une petite ferme. Et du coup, elle faisait toujours le jardinage jusqu'à ses 80-95 ans. Elle faisait le jardinage, elle faisait des potagers. Et je le voyais aussi juste toujours en train de cultiver des choses incroyables. Et je pense que ça m'a beaucoup influencée.
Et c'est de cette manière que vous perpétuez un petit peu leur héritage.
Oui, je pense.
Je retrouve beaucoup de Nagori chez vous. Ce sentiment de ce qui vient de se passer et qu'on voudrait avoir capturé. Est-ce que dans votre approche, même dans vos recettes, vous avez mis en avant une aubergine à la cacahuète qui retient la saveur de l'été?
C'est très bon ça.
Est-ce que décrire votre cuisine et votre rapport à la cuisine, ça vous a permis de le vivre autrement, de le formuler et peut-être de le rencontrer autrement?
Je pense que l'acte de processus d'écrire, ça m'a donné le temps d'être plus consciente de comment j'ai envie de cuisiner et aussi le fait d'imaginer que c'est pas que moi qui va faire ces recettes. Et du coup, comment les rendre à la fois accessibles, mais aussi expliquer. C'est pas juste le fait d'utiliser les dernières aubergines, c'est cette notion que ce sont les dernières aubergines de cette année. Et c'est un moment aussi de dire, de se rendre compte qu'il y a 8 mois qui viennent de passer d'une année. Bien sûr, c'est une année qui est faite avec le calendrier. Enfin, c'est pas, on peut aussi souscrire à notre notion de temps. Mais dans cette temporalité que tout le monde, enfin, qu'on partage, je pense que c'est beau d'avoir ces moments de se rendre compte des saisons. Et pas juste de dire, il faut manger saisonnier, mais aussi de dire que, waouh, ça c'est... Oui, c'est quelque chose, c'est comme le kombava que vous venez de m'offrir de votre jardin, que c'est un cadeau très très beau, merci infiniment. Mais de dire que waouh, là, il y a des kombava et bah, là, je vais les garder, je vais me rappeler de ce moment entre nous. Et chaque fois, je sais que là, quand je vois des kombava, je vais penser à ce moment. Et le fait que j'ai goûté un kombava qui est cultivé dans le nord de France, enfin à Paris. C'est beau ça. Et je pense qu'on peut utiliser la nourriture, les saveurs, les parfums, pour nous rappeler, pour se guider dans le voyage de la vie.
D'ailleurs, vous dédiez votre livre à tous ceux pour qui les goûts sont les souvenirs les plus précieux, à tous ceux chez qui la vue des fleurs ravive une profonde nostalgie. Il a fallu que vous partiez de l'Inde pour que l'Inde vous manque.
Oui.
Et
oui,
pour que vous vous rendiez compte aussi qu'il fallait une façon de la retrouver autrement.
Oui.
C'est votre grand-mère qui vous l'a appris ça,
oui,
que la cuisine, ça vous permettait d'avoir un peu d'ailleurs chez,
oui,
soi.
Oui, parce que je pense à mes deux grands-mères en vrai qui ont... Avec Dora, elle est partie plus tôt que... Enfin, quand j'étais ado, et j'ai pas vraiment pu échanger beaucoup avec elle. Mais avec Adji... Oui, le fait qu'elle a voyagé dans un moment où c'est pas forcément facile pour des femmes indiennes de vécu dans tous ces... Enfin, c'était un autre monde. Et de lui voir avoir tissé des amitiés, rencontrer des gens, trouver des travails, ça m'a beaucoup inspirée. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi maintenant, aujourd'hui, qu'elle, ça fait une bonne trentaine, quarantaine d'années. Et du coup, ouais, ça m'a appris comment trouver ma place.
Merci beaucoup, Zuri.
Merci à vous, infiniment.
Là où le riz sent les fleurs de manguier est édité chez Ulmer, j'ai dit que c'était un trésor, il l'est. Sur la page de l'émission, nous avons glissé une recette ou deux, on va voir, et les liens pour vous suivre, bien sûr, Zuri, sur les réseaux et dans vos pérégrinations artistiques. Merci beaucoup à Guillaume Munier pour la réalisation de ce Goût du Monde. L'émission est disponible en podcast sur Pio Radio et sur toutes les plateformes, à écouter quand vous le voulez, la nuit ou le jour. Merci de vos messages, de votre fidélité, et très bonne semaine à tous.